Si loin, si proche, découverte. Le magazine des voyages. Ludovic Duneau, Laure Allary.
Que ce soit un visiteur du XVIe siècle ou un visiteur du XXIe siècle, les gens sont forcément émerveillés par l'éclat de ce château de Chambord. C'est une vraie réussite pour François Ier.
Bonjour, on part au cœur de la France, dans le Val-de-Loire, pour visiter l'un des plus imposants et fascinants châteaux français, celui de Chambord. Ce joyau de l'architecture et du patrimoine est très populaire auprès des Français. Il est aussi internationalement réputé et l'UNESCO l'a inscrit sur sa liste du patrimoine mondial depuis 1981. C'est dire si on va découvrir un lieu d'exception, un lieu singulier, également unique au monde. Ce palais de la Renaissance retrouve en 2017 ses jardins à la française qui avaient disparu. C'est un bon prétexte pour y faire un tour et pour pousser au-delà des murs du palais, dans la vaste forêt, jadis domaine royal puis présidentiel de chasse. Si le château est unique, sa forêt l'est tout autant. Mais avant de nous enfoncer dans les bois ou de musarder dans les jardins, on va prendre du temps pour saisir la force d'un château dont l'image nous est peut-être mondialement familière, mais dont l'identité profonde nous échappe. Car Chambord, c'est une vraie nature.
C'est une œuvre totale. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans un bâtiment qui peut être un relais de chasse, effectivement, parce qu'on a toute cette admiration du roi pour l'activité de la chasse, que François Ier y ferme son parc pour bien dire qu'on est dans le domaine de ses plaisirs. Mais on est aussi dans un bâtiment qui se veut être le bâtiment le plus moderne de son temps. Ils ont travaillé un bâtiment que l'on aurait pu nous construire aujourd'hui. Et on a aussi tout cet aspect symbolique de l'édifice où le roi il appose pourquoi il a ce pouvoir, de qui il vient son pouvoir, qui il apprécie. On a des références à la Bible, tout est symbole aussi à Chambord. Quand on comprend un tout petit peu l'édifice, on se dit que c'est une œuvre totale. Voilà, je crois que c'était l'expression qui caractérisait vraiment les lieux.
Il y a déjà toute une ambiance pour arriver jusqu'ici. Cette œuvre totale, comme le dit Virginie Berdal, chargée de recherche au château, pose majestueuse au cœur d'une profonde forêt. Ses clochetons d'ardoise noire et ses hautes cheminées nous apparaissent petit à petit comme le décor d'un conte d'autrefois. C'est rien de dire que Chambord est pittoresque, le monument est bien plus que ça. Il dégage une poésie unique qui attire plus de 700 000 personnes dans ses salles chaque année, une fréquentation qui monte jusqu'à 1,5 million si on compte ceux qui ne regardent que les façades. Chambord, c'est le château de nos rêves d'enfants. Et ce palais, c'est l'œuvre d'un homme éclairé qui vivait il y a 500 ans, un roi de France réformateur qui veut étonner son temps. Il s'appelle François Ier.
Il est tout jeune, il a une vingtaine d'années. C'est un roi déjà très ambitieux, mais qui vient de remporter Marignan, donc il a envie de montrer son pouvoir. Et puis c'est un roi qui aime beaucoup la chasse, il passe beaucoup de temps à la chasse. Il est déjà venu chasser ici à Chambord étant plus jeune. C'est un site qui paraît idéal pour organiser les chasses royales. En tout cas, sort d'un espace ultra marécageux un bâtiment d'exception qu'on n'aurait jamais attendu ici.
François Ier modernise la France et propulse son pays dans une nouvelle époque, la Renaissance. Extérieurement, le château de Chambord emprunte encore aux formes du Moyen-Âge, la période qui s'achève. Et il garde des traits typiques d'un château fort, grosse tour, toit haut et pointu, une multitude de fenêtres s'accrochant aux pentes des toits. On parle d'ailleurs de donjon pour la partie centrale de cette immense résidence. Mais derrière ces références se cache un château révolutionnaire pour son temps. Érigé à partir de 1519, 4 ans après la célèbre bataille de Marignan que connaissent tous les écoliers français, il est à la pointe de la créativité. On pourrait même dire que c'était en son temps une œuvre d'art contemporain radicale. Aujourd'hui, les visiteurs ne le ressentent pas forcément. Il faut guider leur regard. D'abord, le plan.
Alors, on a un donjon qui, à la base, est un bâtiment de forme carrée. En plein centre du carré du donjon, on a l'escalier à double révolution qui occupe un carré de 9 mètres sur 9 mètres. Et c'est un carré important. Ce module-là, on le retrouve ensuite partout à Chambord. Autour de l'escalier à double révolution, on a un ensemble de vestibules qui forment une croix, la longueur étant 2 carrés. Et la largeur étant 1 carré.
Donc une croix grecque, parce que toutes les parties de la croix sont de même grandeur.
Exactement. Il y a aussi une inspiration religieuse. Dans la Bible, dans le texte de l'Apocalypse, Dieu évoque sa cité idéale, la Jérusalem céleste, et il la décrit comme une ville de forme carrée, ouverte de 12 portes, avec un plan en croix grecque à l'intérieur. à Chambord, on retrouve ces éléments-là, sachant qu'en plus, au XVIe siècle, au rez-de-chaussée, il y avait bien 3 portes d'entrée dans chaque vestibule, donc 12 portes d'entrée.
Vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que Chambord est avant tout un exercice de géométrie et de symbolique. Rien n'est imaginé et construit par hasard. Il y a une vraie jubilation à découvrir à quel point tout est pensé, intellectualisé. L'immense escalier à double révolution, la vedette du lieu, n'échappe pas à la règle.
Chambord, dans les livres, on le représente toujours par son image, voilà, l'escalier ici. Mais c'est vrai que c'est une merveille.
Alors, il est immense, hein. C'est une sculpture monumentale à lui tout seul, très aérien. Mais effectivement, tout le château s'ordonne autour de ce point central.
Eh oui, la hauteur des pièces est expliquée par cet escalier, qui est la colonne vertébrale du monument, ou une espèce de tronc d'arbre. Et les branches de l'arbre se déploient ensuite au niveau des couloirs dans lesquels nous sommes. C'est la perle de Chambord, c'est une prouesse artistique et technique qui trône en plein centre et qu'on ne peut pas louper. François Ier a créé un plan dans le donjon qui amène chaque visiteur à voir en premier en entrant l'escalier. C'est un escalier qui est merveilleux parce que les gens en fait ne comprennent pas trop comment il est organisé. Face à nous, on a un escalier en double vis, un noyau central, et autour de ce noyau s'enroulent deux rampes d'escalier.
On va dire... Indépendantes l'une de l'autre.
Oui. Une rampe qui commence dans le vestibule, on va dire à peu près sud, et une rampe dont le point d'entrée est dans le vestibule nord. Et les deux rampes s'enroulent ensuite dans le même sens, l'une au-dessus de l'autre, autour du noyau. C'est la forme de l'ADN, hein. Voilà, c'est ça, on a l'ADN présenté dans cet escalier. Ça peut créer des situations fabuleuses. Le roi passe d'un côté, un courtisan, sans faire attention, a emprunté l'autre rampe. Si le roi et le courtisan montent en même temps, ils se voient dans les fenêtres. Le courtisan peut avoir l'impression qu'à un moment donné, il va pouvoir rejoindre le roi de France. Il court. Mais non, à chaque fois, il le revoit passer dans les fenêtres et il disparaît perpétuellement. Cet escalier, c'est du théâtre. Mais cet escalier, c'est aussi à cause de lui que Chambord a été inhabitable. C'est-à-dire, quand on fait un escalier double en plein centre d'un bâtiment, il faut forcément s'adapter à ses dimensions. Il a créé des pièces deux fois plus haut, deux fois plus large que d'ordinaire. Chambord est inchauffable.
Alors, si cet escalier est si exceptionnel, il n'a pu être réalisé que par un génie. Donc le génie de l'époque que le roi de France fait venir sur les bords de Loire pour l'accompagner, c'est Léonard de Vinci. Donc forcément, ce serait un escalier imaginé par Léonard de Vinci.
C'est un escalier qui représente l'esprit de Léonard de Vinci à Chambord, assez certainement. Après, que ce soit lui qui l'ait projeté pour le monument, on ne sait pas très bien. Je crois qu'on ne peut vraiment pas répondre à la question.
C'est certain, François Ier utilise l'art pour affirmer la modernité de son temps. Ça se voit aussi dans la manière dont sont conçues les pièces du château.
À tous les étages, on a le même principe, 4 vestibules qui donnent sur l'escalier du centre. Et puis, donc, dans les coins, il y a là où on peut vivre alors.
Oui, et les appartements sont standardisés aussi. Tous ces appartements qui sont dans les angles sont organisés suivant seulement deux modèles. Soit on a des appartements de type carré, ou alors on a des appartements deux tours aux angles.
On y va ?
On y va. Dans le donjon, ils ont créé 48 appartements, soit carrés, soit deux tours. Dans chaque appartement, on logeait entre 20 et 30 personnes peut-être. Certains appartements, comme celui dans lequel nous venons d'entrer, représente à peu près 240 mètres carrés habitables.
Alors c'est haut de plafond, encore une fois.
Toujours nos 6,30 mètres qu'on retrouve, comme dans les vestibules. Ici, nous sommes dans la pièce à vivre. Cette pièce-là, elle servait pour dormir, manger, recevoir, jouer. Et on a sur les côtés des petits cabinets.
C'est-à-dire ? Ah, c'est déjà beaucoup plus intime, hein.
Oui, c'est une pièce pour la prière.
On a diminué de moitié le plafond ici.
Là, on est à peu près 3 mètres. Bon, c'est une pièce dans laquelle on vient quelques minutes par jour pour se recueillir, mais on est en position statique. Il faut que ce soit une pièce facile à chauffer. La garde-robe dans laquelle on va se changer et se laver, ou le cabinet de travail dans lequel on va être assis à une table sans bouger de longues minutes, il faut de la chaleur. Donc là-bas, il y a des cheminées, mais il y a aussi cette hauteur de 3 mètres. Alors forcément, pour rattraper la hauteur de la pièce à vivre qui faisait 6 mètres 30, on va pouvoir créer un deuxième niveau habitable.
Et encore des petites salles toutes cosy, toutes simples.
Là, on est bien, effectivement. On est dans des pièces, voilà, toujours 3 mètres de hauteur.
Hop là. La porte est assez étroite, hein.
Oui.
Mais attendez, cette architecture modulaire, comme on la retrouve dans nos immeubles de rapport du XXe siècle, ou même comme on a commencé à la faire au XIXe, là on parle quand même d'un château qui est construit au début du XVIe siècle.
Oui, c'est une révolution. Des appartements standardisés qui sont relativement intimes, dans lesquels on vit en famille, c'est un peu fou comme idée ça. Et les gens ont tous le même appartement, ou presque. Le roi, il est logé comme les autres dans un appartement de tour. Ils veulent faire de Chambord le bâtiment le plus moderne de son temps. Comme il y a ce système d'entresol à l'intérieur, le château est divisé en 9 niveaux habitables. On habite du rez-de-chaussée jusqu'au bout des toits. Ils optimisent l'espace au maximum de Chambord. Ici, le trésor, c'est toute la recherche qu'ils ont exécutée pour créer cet édifice. C'est ça le trésor du roi. L'architecte ? Ah, mystère ! Tout le monde recherche, c'est un peu le Graal de Chambord. En fait, il y a plusieurs écoles d'historiens qui s'opposent. Il y a ceux qui disent que ce serait François Ier lui-même, par exemple. Il se base notamment sur le témoignage d'un ambassadeur portugais qui s'appelait Francisco Moraes et qui raconte ses voyages dans le royaume de France. On est milieu 16e. Et il dit que quand il avait voyagé avec François Ier, il l'avait vu, souvent pendant des haltes, prendre des parchemins et dessiner des bâtiments qu'il voulait faire construire. Alors ça semblait montrer un François Ier, architecte, qui aime à imaginer des bâtiments. Mais la suite du texte, qui n'est jamais citée en général, c'est « Et cela ne donnait jamais rien ». Donc non, François Ier, c'est quelqu'un qui réfléchit sur l'architecture, il doit donner des idées, mais ça n'est pas l'architecte. Bon. Ensuite, on a toute une école qui dit que ce serait Léonard de Vinci. Alors Léonard de Vinci, bon, il arrive en France 3 ans avant qu'on commence à construire Chambord. C'est un personnage qui n'est pas vraiment un architecte. Dans sa vie, c'est un génie formidable, mais il faisait des esquisses de bâtiments, il n'en traçait jamais tous les traits. Donc c'est difficile d'imaginer quand même que Léonard, à la fin de sa vie, au moment où il est assez âgé, il a une main paralysée, il entreprend voilà, tracer tous les traits d'un bâtiment.
Et pourtant, dans ses croquis, parce qu'il habite pas très loin d'ici, il finit sa vie à Amboise, sur les bords de Loire, on trouve des dessins de clochetons, des pseudo-plans avec des tours comme ça.
Des escaliers à double révolution, oui. On a beaucoup de choses qui nous relient aux idées de Léonard. Donc, est-ce qu'il faut en faire un architecte ou est-ce qu'il faut en faire l'inspirateur du bâtiment? Mais il y a une idée qui est séduisante, enfin moi qui m'avait séduit il y a quelques années, au Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours, on a parlé d'une idée, c'est Chambord, œuvre d'une sorte de commission d'experts. C'est-à-dire, on aurait fait travailler ici à la fois des maîtres maçons, des maquettistes, des architectes français et italiens, qui auraient permis d'établir le bâtiment le plus moderne de leur temps, un abrégé de ce que voulait l'industrie humaine, comme l'avait dit plus tard Charles Quint en visitant les lieux. Et du coup, on ne cite pas forcément leur nom parce que c'est une commission d'experts. Donc Léonard de Vinci peut-être en fait partie. Il y a son esprit en tout cas à Chambord, ça paraît certain.
Montons dans ce grand escalier qui est la vedette du château de Chambord, ce lieu de théâtre donc, parce que finalement, la visite va continuer en plein ciel. La découverte n'est vraiment pas terminée dans ce lieu insolite, singulier, unique. Il faut monter jusque sur les terrasses pour avoir la suite de l'histoire toujours aussi intrigante. Éric Joanneau, vous êtes chargé de recherche ici au domaine de Chambord. Ça se mérite, ces terrasses. Et on est encore dans le rêve ici parce que on n'a pas l'impression d'être sur des terrasses, on a d'abord l'impression d'être dans un petit village de la Renaissance. C'est vrai qu'il y a ces pavillons qui ressemblent à des petites maisons de la région avec des grands toits en ardoise très haut, une forêt de cheminées qui poussent vers le ciel comme des gratte-ciel de pierre de la Renaissance, qui sont très ornés aussi. On a presque l'impression de se balader comme ça dans des petites rues. Et puis, il y a le décor.
Arrivé aux terrasses, on entre dans un second château. Là, on arrive désormais dans un lieu un peu de conte de fées, un lieu féerique. Alors, à quoi servent-elles? C'est la question qu'on se pose, c'est la question que nous posent les visiteurs, et une question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre, parce que Tantôt, on a volontiers dit au 19e siècle, dans les premiers guides touristiques qui existaient, que de là-haut, on pouvait apercevoir le gibier courir au loin ou apercevoir les chasses. Mais à vrai dire, on sait que les chasses n'ont eu lieu que l'hiver, sous François Ier. Bon, la plupart du temps, en fait, ces terrasses ne servent à rien. Et puis l'hiver, on ne passe pas son temps en terrasse. Donc finalement, c'est un lieu de déambulation qu'il faut parcourir au moins un moment quand même, parce qu'on est ébahi de ce qu'on voit. Mais à vrai dire, elles n'ont pas de réelle utilité, si ce n'est d'éblouir le spectateur.
Épater la galerie, comme on dit.
On peut dire épater les galeries.
Et au centre de ce village, au centre de ces terrasses, il y a finalement la fin de cet escalier central. Ce n'est plus un escalier, c'est une immense lanterne ronde. Il y a toujours ces grandes salamandres qui sont l'emblème de François Ier, des fleurs de lys et des couronnes. Et puis, elles se projettent carrément vers le ciel, comme une fusée. C'est presque une fusée posée au milieu du château.
En tout cas, elles se projettent, comme vous le dites, puisque la tour lanterne qui coiffe l'escalier est bien plus haute que l'escalier qu'elle coiffe.
Des deux étages qu'on a montés.
Et la tour lanterne fait 32 mètres à elle toute seule. Donc c'est comme si on portait nous-mêmes un énorme chapeau plus haut que notre taille. Oui. Et elle projette vers le ciel la fleur de lys sommitale.
Donc c'est le roi de France dans toute sa puissance.
On peut dire que c'est un peu une image en pierre de François Ier. Nous tournons autour de lui, tout s'organise, le plan s'organise autour de ça, de cet axe-là. Et c'est bien lui qui incarne la toute puissance ici.
C'est intéressant parce que le roi de France a un statut particulier parmi tous les monarques du monde. Il se déclare de droit divin.
Toute la souveraineté du roi de France repose sur ce principe que le roi détiendrait son pouvoir de Dieu. Et donc la France se tient aussi pour être la fille aînée de l'Église. Donc le souverain de France se considère dans l'Europe de l'époque comme le plus à la plus haute dignité.
C'est ce que pourrait raconter cette tour lanterne aussi, avec toute la symbolique qu'on ne sait plus lire aujourd'hui au XXIe siècle, mais que peut-être quelqu'un qui vivait au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle comprenait du premier coup d'œil.
Il est probable que certains sens du château échappent, même au XVIe siècle, à la vue des contemporains. Il suffit de se rappeler des mots que rapporte la sœur de François Ier qui visite ce château et qui se plaint de le visiter sans le roi, sans frère. Et elle dit « Vois vos châteaux sans vous, c'est un corps mort ». Et le parcourir sans ouïr sur cela votre dessein, c'est comme lire en hébreu. Donc il y a bien des sens cachés qui sont imperceptibles si on n'a pas le roi en personne pour vous les expliquer.
Alors tout ce qu'on peut entendre aussi sur le fait que par exemple en architecture, ça commence par un carré qui est quatre éléments terrestres, donc vraiment la terre. Il y a un octogone qui représente l'infini en symbolique et que ça se termine par un rond qui est la symbolique du monde céleste et donc de Dieu. C'était un peu trop simpliste ou ça allait peut-être pas si loin ?
Non, je ne peux pas trop m'étendre sur ce terrain-là, mais il est vrai que la forme carrée est plutôt associée en général au terrestre, la forme circulaire au céleste. Et c'est vrai qu'à Chambord, on a formellement dans l'architecture ces deux types de figures. Le donjon est un carré à quatre tours d'angle aux angles, donc quatre cercles. À l'intérieur, il y a l'escalier central qui lui-même est contenu dans un cercle. On pourrait presque dire un octogone, là, puisqu'il est contenu entre huit piliers. Donc ça forme un octogone. Et tout ça se termine dans des figures qui sont plus proches du cercle dans la tour lanterne, c'est vrai. Donc plus on va vers le ciel, plus les choses s'arrondissent. Et bon, on pourrait avoir cette image-là, ça aussi. Pourquoi pas ?
Donc c'est pas un monument, c'est pas un château, c'est pas un lieu à vivre. C'est quoi ce machin ?
C'est plus difficile de dire ce qu'il est et généralement plus facile de dire ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire déjà on peut dire qu'il n'est pas un château au sens traditionnel du terme. On ne peut pas habiter correctement à Chambord. Mais c'est une poésie, c'est un manifeste d'architecture, c'est une sorte de temple à la gloire de François Ier.
Un manifeste politique.
Et un manifeste politique aussi, voilà.
Et c'est la première fois en France qu'un monarque explique à ce point, dans la pierre et dans l'architecture, qui il est et quel est son pouvoir. Chambord est une destination à part entière, car en plus du château, c'est aussi un immense domaine forestier, autrefois dédié à la chasse. Et entre le château et la forêt, il y a désormais des jardins à la française qui viennent d'être reconstitués. Et c'est là qu'on va se retrouver dans 3 minutes, après avoir pris connaissance des dernières nouvelles du monde. A tout de suite.
Si loin, si proche, Découverte. Le magazine du voyage.
En Entendez-vous le chant du cerf le soir au fond des bois? En tout cas, si vous passez à Chambord en automne, c'est un véritable concert. L'un des plus célèbres châteaux royaux de France, l'un des plus surprenants aussi, n'est qu'une pépite au sein d'une forêt fermée sur elle-même qui est aujourd'hui le plus vaste domaine clos d'Europe. Encore une particularité. On va aller ensemble au fond de la forêt. Mais avant, regardons d'abord ce qui s'offre à nos yeux juste au pied du château. Des jardins à la française qui viennent d'être reconstitués à grands frais. C'est l'actualité de Chambord. Stephen Schwarzman, milliardaire américain de la finance, un des principaux conseillers économiques de Donald Trump également, l'une des personnes les plus influentes de la planète et grand mécène, a donné 3,5 millions d'euros sur sa cassette personnelle pour que ces jardins reprennent vie, lui qui est fasciné comme beaucoup par le domaine de Chambord. Grâce à lui, l'atmosphère autour du château retrouve un faste disparu. Historiens, archéologues et paysagistes ont permis la recréation de ce décor qui est en tout point fidèle à celui qui s'étendait au même endroit avant la Révolution française. Jean Dossonville dirige le domaine national de Chambord.
On est reparti d'une étude de 2001 qui montrait qu'il y avait eu des jardins pendant à peu près 2 siècles et on a restitué très rigoureusement le dessin des jardins terminé en 1734. Les fosses de plantation sont retrouvées au centimètre près. Le seul changement, ce sont les essences végétales à cause des maladies. On a dû s'adapter.
Alors ce que vous appelez les fosses de plantation, c'est en fait ce qui reste encore aujourd'hui quand on fait de l'archéologie pour voir où étaient plantés les arbres. Et c'est ce que vous avez aussi entrepris ici à Chambord, c'est d'abord du travail archéologique avant de redessiner ce jardin.
Ce qui est formidable dans ce projet, c'est qu'on a pu croiser des archives qui étaient les factures, les instructions données aux jardiniers en 1749, l'iconographie, c'est-à-dire des gravures, mais également la prospection géophysique et puis les fouilles archéologiques. Et les fouilles archéologiques ont montré que c'était exactement le nombre d'arbres qu'on avait sur les plans, donc on était très sûr de ce qu'on avait. Et par rapport à ce qui avait été calculé, à 30 cm près c'était bon, donc on a redécalé un tout petit peu. Et on a aujourd'hui sous nos yeux exactement le jardin tel qu'il a été planté en 1734.
Alors, un jardin à la française, c'est un espace très géométrique avec des grandes pelouses, des buis taillés qui délimitent justement des espaces, des arbres aussi plantés de manière très rectiligne. Et puis, les grandes pelouses dont je parlais, elles forment, quand on les regarde du haut, des fenêtres des appartements, des terrasses, ici aussi à Chambord, l'équivalent de tapis, comme si on était dans des pièces. Et il y a aussi ce qu'on appelle des broderies dans ces tapis, comme si on avait justement dessiné des motifs géométriques, un peu floraux, etc. Ce jardin à la française de Chambord, Louis XIV, qui a fréquenté le domaine, l'a rêvé. Il a commencé à en faire les aménagements, mais il ne va pas au bout de son geste. Et ce jardin à la française, c'est un jardin, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est créé en 1734. Donc très tard pour un jardin à la française. D'habitude, quand on parle de ce type de jardin, on évoque le XVIIe siècle et pas le XVIIIe.
Alors ce fut une des surprises aussi des recherches archéologiques. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs projets de jardins sous Louis XIV et notamment un plan de Hardouin Mansart, vraiment son architecte préféré. On pensait que c'était un simple projet et on s'est rendu compte par les fouilles archéologiques que ce jardin avait vraiment été réalisé. Donc le premier jardin de Chambord, en fait, c'est 1682, 50 ans avant celui que nous avons restitué. Alors pourquoi restituer celui de 1734? C'est parce qu'en fait, c'est celui dont la trace a été conservée jusqu'au XXe siècle, en tout cas dans le dessin des allées. Avant 1914, il restait encore pas mal de plantations, ça avait duré. Et ce jardin, en fait, résultait d'une commande de Stanislas Leszczynski, donc qui était ex-roi de Pologne en exil, beau-père de Louis XV, en séjour ici. Louis XV lui avait dit « Voilà, je vous donne Chambord pour y résider, c'est une demeure royale. » Et Stanislas Leszczynski demande un nouveau jardin qui est livré.
Quel est le principal intérêt de ce jardin à la française dans un domaine qui a tant de choses spécifiques et uniques au monde?
Notre pari était d'attirer nos visiteurs à aller sur cette terrasse, à se retourner et contempler la grande façade du château. Parce que, en fait, l'axe de découverte, notamment sous Louis XIV, c'était une chaussée qui faisait qu'on la découvrait au détour d'un bois avec cet effet de surprise. Aujourd'hui, les visiteurs arrivent par le village, donc arrivent en diagonale, et souvent se contentent de voir la grande façade de loin. Nous sommes là, actuellement, avec vous, au pied de cette grande façade, et quand on relève la tête, on voit à quel point c'est un décor extraordinaire, admirable. Et le jardin permet cette redécouverte. Et puis, un jardin, c'est la vie. C'est la vie végétale, ce sont aussi les conversations qu'on a dans un jardin, les rencontres amicales, amoureuses.
La promenade.
Et au fond, quand vous êtes un visiteur, un voyageur, un touriste, vous avez besoin aussi de ces occasions de promenade et vous êtes dans l'esprit de la promenade et ce jardin offre ce moment.
C'était Freda et son gardien des fleurs sur RFI. Retrouvons Jean Dossonville qui dirige Chambord. Ce lieu français d'exception n'est pas seulement un château entouré de jardins, c'est aussi un immense domaine forestier dédié dès l'origine à la chasse.
Les chasses à Chambord commencent avant même Chambord. Il y a eu un Chambord avant Chambord, il y avait un château médiéval. À l'époque, les comtes de Blois, qui étaient des très puissants seigneurs, rivaux des rois de France, chassaient déjà ici. Le domaine est conçu dès le départ par François Ier comme une sorte de petit morceau de paradis. C'est une cité idéale. Il reprend en cela ce qu'avaient fait les Médicis en Italie. Et donc, il a l'idée de clore la forêt d'un mur de pierre. Alors, il commence, lui, sur 2500 hectares. Et il commence par le mur nord, qui est du côté de la Loire. Et c'est Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, qui en 1650-1652...
Donc, un siècle plus tard.
Un siècle plus tard, 120 ans plus tard, termine la clôture avec 5540 hectares de bois et de prairies, c'est-à-dire à peu près la surface aujourd'hui de Paris intramuros. Notre mur est long de 32 km.
Mais c'est grâce au désengagement à partir du milieu des années 90 de la présidence de la République que le commun des mortels va pouvoir pour la première fois entrer dans ce domaine jusque-là exclusif, privé et secret des chefs d'État.
C'est à peu près à ce moment-là, mais en fait, le président Pompidou, dès 1974, avait réservé 500 hectares ouverts en permanence à la visite, qui se situe entre la partie nord le long de la Loire et le château.
Que le peuple se promène, 500 hectares disponibles, soit même pas un dixième du domaine. Le reste, l'immense reste, n'a donc pas été accessible au commun des mortels pendant 5 siècles, lieu secret. Mais désormais, la forêt se visite, un peu à pied et à vélo, sur 750 hectares seulement, mais surtout en découverte accompagnée grâce aux agents forestiers du domaine toute l'année. On n'y entre toujours pas, malgré tout, comme on veut. En automne, ces visites découvertes sont réservées des mois à l'avance pour aller entendre et voir le brame du cerf. C'est certainement le plus grand spectacle de la faune d'Europe occidentale. Le temps passe vite à Chambord, il est 5 heures au carillon de l'église paroissiale du petit village, à l'ombre du château, le soleil ne va pas tarder à se coucher, alors montons vite en voiture, tout terrain, avec d'autres curieux et surtout François Coutant qui a travaillé pendant plus de 30 ans au domaine de Chambord. C'est lui qui m'avait servi de guide lors d'une sortie brame.
Bien, passé cette barrière, vous allez rentrer dans la partie interdite au public, hein, au cœur de la réserve. Donc là, je vous amène donc en observation Brame ce soir. Donc, en observation Brame, il y a des petites règles à respecter, bien sûr. On va se retrouver plusieurs groupes, donc c'est se respecter mutuellement les uns les autres. Alors, pour se respecter, j'ai pensé à éteindre vos téléphones portables. Une fois que vous serez assis, on ne se déplace plus. On ne parle pas, bien sûr. Ça va être très difficile, je sais. Devant vous, vous allez trouver un filet de camouflage. On ne le soulève pas. J'autorise les photos, bien sûr, sans problème. Mais surtout, sans flash. Et chose primordiale, on ne descend pas du mirador sans que je sois avec vous.
En roulant, on voit des affûts un peu partout avec des numéros, des petits affûts tressés en bois, en paille.
Ce sont ce qu'on appelle des affûts de battue qui nous servent pour les battues aux sangliers. Il y en a environ 1500 sur le parc.
Dans l'imaginaire des Français d'aujourd'hui, Chambord est synonyme de chasse présidentielle, excusez du peu. En avançant dans ces allées forestières, on a l'impression d'être privilégié et d'entrer au cœur des espaces secrets de la République. Jean Dossonville.
Les chasses présidentielles ici sont une parenthèse historique. En fait, elles commencent sous le général de Gaulle qui vient en 1965 présider une chasse. Probablement, ça je n'ai pas vérifié, sur la proposition de Georges Pompidou qui était devenu chasseur. Et Pompidou décide que Chambord sera la chasse présidentielle pour le sanglier et aussi pour les cervidés.
Donc pour les gros animaux.
Et avec l'idée qu'on peut inviter des hôtes étrangers dans un lieu magnifique qui reste ouvert au public, mais qui donne une expression de ce qu'est la France.
Alors, Jean Dossonville, qui reste ouvert au public, le château reste ouvert au public, mais la forêt est un domaine mystérieux pour le français moyen ou le touriste qui vient à Chambord, interdit de séjour. C'est un domaine réservé de la République française, c'est la présidence de la République qui gère ce domaine en direct. C'est là qu'ont lieu ces fameuses chasses présidentielles qui sont donc aussi un outil diplomatique français, mais un outil aussi, j'allais dire, d'affaires, puisque s'il y a des gros contrats à conclure, pourquoi pas les conclure au moment d'une chasse. C'était ça l'idée.
Il y a eu des chasses présidentielles jusqu'en 1995-2010, selon la césure qu'on prend. Et il n'y a plus aucune gestion directe par l'Élysée des affaires du domaine national de Chambord qui a été créé en établissement public national en 2005. Et tout a été rassemblé. Et l'idée aujourd'hui de l'État, c'est d'avoir un seul gestionnaire responsable de tout le site, château, parc, forêt. Et donc aujourd'hui, nous continuons de chasser parce que la chasse est nécessaire pour la régulation. La réserve nationale de chasse et de faune sauvage dans laquelle nous sommes a été créée en 1947 à l'époque pour repeupler la France en grands animaux. C'est chose faite aujourd'hui.
Parce que la Seconde Guerre mondiale, avec les bombardements, avec tout ce qui s'était passé, avait été aussi très destructrice pour la faune française.
La faune française a été beaucoup touchée pendant la dernière guerre parce qu'il y a eu soit des combats dans des zones forestières, il y a eu beaucoup de braconnage aussi.
Il fallait manger.
Donc il y avait très peu de grands gibiers à la fin de la guerre. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a trop de grands gibiers à l'échelle nationale. En revanche, nous restons une réserve nationale de faune sauvage et de chasse. En réalité, Chambord, dès le début, était conçu pour ne pas être une forêt ouverte en permanence. Donc ce caractère mystérieux, il fait partie de l'identité même de Chambord. Et ça nous permet aujourd'hui d'abriter des oiseaux de proie très rares, par exemple les balbuzards pêcheurs, les cirquets de Jean Leblanc, les autours des palombes, des oiseaux qu'on ne voit plus tellement en France. On a même des cigognes noires qui viennent nidifier ici. Ça, c'est grâce à la quiétude de cette réserve. Et puis, sinon, il y a toujours des battues qui sont organisées, qui sont des battues de régulation, parce qu'en fait, une population de sangliers peut doubler ou tripler en un an ou en deux ans, selon les cas, et une population de cervidés augmente de 20% par an. Donc si vous ne régulez pas, vous avez des problèmes de maladies, problèmes sanitaires, des atteintes à la forêt. Et aujourd'hui, la chasse, elle consiste en fait à accueillir les responsables du service public de la chasse en France, que sont les présidents de fédérations départementales de chasseurs ou les préfets qui sont chasseurs, les élus nationaux qui sont chasseurs, en fait ceux qui participent à la fabrique de la législation ou la réglementation de la chasse, d'une part, et d'autre part, nous l'utilisons aussi lorsque nous avons des mécènes chasseurs pour les remercier. Et ça nous a permis de développer beaucoup le mécénat et en contrepartie de réduire beaucoup les subventions de l'État versées à l'établissement. C'est-à-dire que nous avons une démarche qui est très saine du point de vue des finances publiques.
Ce
que vous me dites, c'est que les millionnaires ou les milliardaires sont aussi chasseurs, aiment la chasse.
Nous avons également des gens très fortunés qui sont mécènes, mais le propre des chasses de Chambord, c'est que vous avez un mélange de tous les milieux sociaux. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez être l'élu d'une commune rurale, gagner le SMIC et vous serez invité en tant qu'élu, par exemple, à la battue des maires de France. Vous pouvez avoir compté dans un projet cynégétique qui était peut-être très garant de biodiversité et vous serez sans doute invité aussi parce que vous aurez été recommandé, parce qu'on vous remercie comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu une sorte d'honneur de la République de la chasse dans ce monde-là, qui permet aussi d'inciter des responsables de chasse à aller vers des pratiques qui soient plus éco-responsables.
Voilà, on arrive donc au mirador d'observation. Là, on ne veut pas claquer les portières, s'il vous plaît. Et je vous emmène en observation.
Vous avez déjà des animaux de sortie. Vous avez deux cerfs qui sont sur la prairie, en train de somnoler, hein, vers 7h, 19h30, 20h, 19h30, j'espère. Ils vont se mettre debout et ça va se mettre en place, à la fraîcheur.
Oui, il y en a un qui est vraiment très, très affalé et l'autre qui a quand même la tête relevée, a priori. Hein.
Exactement. Mais je pense que dans quelques instants, ils vont se relever et bramer, vous allez voir. Il faut être patient, comme tout ce qui est animalier. Les animaux sont vraiment sauvages et en liberté. À Chambord, il n'y a aucun animal qui va manger une cacahuète dans le creux de la main. Alors soyez patients.
Il y a un superbe cerf là-bas avec une ramure magnifique, beaucoup plus gros que les autres. Il s'en va, il est en train de rentrer sous bois, il va peut-être revenir.
Le brame, c'est le son du cerf ou c'est son attitude, la période de l'année?
C'est surtout déjà en priorité le son. On dirait que le cerf brame, hein, c'est le bruit qu'on appelle brame. Et ensuite c'est global, on dit on va voir le brame, c'est la période de reproduction. C'est le son mais surtout en priorité aussi, donc la période de reproduction.
Et il ne fait ce son qu'à la période des chaleurs.
Qu'en période de brame. Hein, c'est un peu l'irritation du larynx qui fait ce son de brame. Et là, il a ce son que du 15 septembre, 15 octobre. Et en fin de brame, il va ouvrir la gueule, mais il n'y aura pratiquement plus de son qui sortira tellement qu'il est cassé, qu'il est à chasse. On entend un léger petit son, mais il est complètement perdu pour le coup à chasse.
S'il fait ce son que pendant un mois, ça veut dire que la femelle, la biche, n'est féconde que pendant ce mois-là?
Non, la biche se retrouve en chaleur plusieurs fois durant cette période de brame, plusieurs fois dans le mois, mais il faut savoir que les chaleurs chez la biche sont très courtes, durant environ 8 heures. Mais elle peut se retrouver 2-3 fois en chaleur pendant la période de brame. Comme la biche qui est en chaleur, par contre, elle peut se faire saillir 2-3-4 fois la queue leu-leu, si je puis dire. Hein? Et se faire saillir aussi par différents cerfs. Si le cerf qui l'a saillie la première fois perd sa place de brame en combat, c'est celui qui remporte le combat qui ressaillira une deuxième fois.
Il y a un combat là-bas dans les herbes sèches. Sous les arbres là-bas, il y a deux cerfs qui se battent. Je sais pas si on les voit encore. Ils sont front contre front. Il arrive sur la place de Brame.
Une biche, une bichette, un faon et un jeune cerf.
Vous êtes sur une place de Brame qui font 6 hectares. Sur une place de Brame comme vous avez en face de vous, vous pouvez avoir 5-6 cerfs qui tiendront leur place de Brame. Et ils essaieront de se prendre les biches les unes des autres. Soit par combat ou par faisant des grands détours, essayer de prendre une biche. Donc c'est le cerf qui sera le plus vieux, hein, toujours le plus vieux, qui essaiera de prendre une biche le plus jeune. Soit déjà en aboyant, en lui faisant un peu peur, et puis après, si ça ne fonctionne pas, il y aura combat, et c'est celui qui remporte le combat qui prendra les biches de l'autre.
sangliers qui sont passés juste à côté du groupe de biches. Et les marcassins étaient carrément dans les pattes des biches. Et là maintenant, c'est le gros mâle qui ferme la compagnie qui va passer juste à quelques mètres des biches et du cerf. Et là, il y a une biche tout près de nous. Non, c'est pas une biche, c'est un jeune mâle. C'est un daguet. C'est un mâle qui a ses premiers bois. C'est vrai que comme on est entre chien et loup, on voit un peu moins bien. Juste entre ses deux oreilles, on distingue deux perches, deux dagues. C'est pour ça qu'on l'appelle le daguet.
Là, en ce moment, il y a un cerf qui se frotte les bois sur l'herbe de manière un peu énervée.
Mmh. Alors, lorsque les biches sont en chaleur, justement, le cerf va frotter ses bois au sol. Ça lui agit sur les glandes sexuelles. Il éjacule et souvent, il se roule dans son sperme. Hein, c'est bien remarqué, chaque fois que le cerf frotte ses bois, il éjacule et il se roule dans son sperme. Et parfois, il s'éjacule dans la gueule. Hier soir, j'ai fait une belle photo d'un cerf en train de s'éjaculer dans la gueule. Donc, c'est pour ça qu'en fin de brame, surtout au petit matin, à 6h du matin, comme demain matin lorsque je vais venir, on va les sentir de loin. Hein, ils sentent vraiment, si je puis dire, grosso modo, le bouc.
Parce que ça leur donne encore plus de force, de vitalité de faire ça.
Non, disons que grosso modo, ils se masturbent. Lorsque les biches ne sont pas en chaleur, eh bien, le cerf se soulage donc par lui-même en se frottant ses bras au sol, agit sur les glandes sexuelles, je vous dis, et il éjacule. Donc c'est certain que biche en chaleur, masturbation, entre guillemets, le cerf en fin de brame est complètement cassé, complètement HS.
Quel boulot chaque année ?
Eh oui, mais c'est qu'un mois dans l'année. Attendent ce 15 septembre, 15 octobre pour venir à Chambord, hein, parce que c'est quand même un endroit vraiment typique par rapport à ces places de brame, ces prairies gibiers que nous avons créées dans les années 70-72 qui servent de places de brame à l'heure actuelle, qu'on trouve rarement en France.
On n'arrive pratiquement plus rien à distinguer à l'œil, hein. C'est vraiment que l'oreille qui joue maintenant. Hein. On n'est plus entre chien et loup, la nuit vraiment tombe là.
Ouais. Là il est 20h30, donc si les personnes veulent descendre, on descend, sinon on va rester un petit moment en observation.
Alors qu'est-ce qui vous a plu ce soir à vous ?
Le brame bien sûr, hein. C'est le cri qui vient du fond des âges, quoi. C'était fantastique de voir ces cerfs.
Le combat dans les hautes herbes où on ne voyait juste que les dos roux qui dépassaient et les bois qui s'entrechoquaient, c'était aussi très impressionnant, très loin au fond de la prairie.
Oui, c'était très intéressant d'essayer de deviner ce qui se passait. Puis tous les cerfs qu'on n'a pas vus sur la place de Brame, qu'on devinait simplement dans le fond de la forêt, bah, c'était captivant aussi d'essayer de deviner ce qui pouvait se passer derrière. Puis à un moment, on oublie qu'il y a toute la civilisation autour de nous, quoi.
Et on sent qu'il y a des enjeux, hein.
Ah bah oui, là on a bien vu quand il y avait par exemple les jeunes, les daguets, il y a un ou deux daguets qui ont voulu traverser la place, on a vu qu'ils venaient jouer dans la cour des grands, quoi. C'était du sérieux, quoi. Ils ont été remis à leur place, quoi.
Bon retour.
Moi aussi.
Il faut réserver tôt dans l'année pour observer et pas seulement entendre, ça fait toute la différence, le brame du cerf à Chambord. Mais en restant aux abords du château entre chien et loup en début de nuit, on peut souvent très facilement entendre ce concert spécial et c'est déjà toute une atmosphère. Cette partie du domaine est ouverte à tous, à tout moment, et une fois les touristes partis, quand les portes des salles du château sont closes, on a l'impression d'être seul au monde dans ce domaine fantasmagorique, avec l'oreille appelée par la forêt et le regard vagabondant sur le château.
C'est une ambiance particulière qui fait que quand les gens visitent Chambord, je crois qu'ils repartent forcément émerveillés. Même s'ils n'ont pas compris le bâtiment et qu'ils peuvent être déçus parfois de ne pas l'avoir compris, ils repartent toujours émerveillés par l'architecture. Et je pense beaucoup à ce moment-là aux auteurs romantiques du 19e siècle qui viennent se balader à Chambord et qui rêvent, qui imaginent des choses merveilleuses. Chateaubriand, dans la vie de Rancet, en observant le donjon et ses toits terrasses magnifiques, il dit « L'édifice est une arabesque, il se présente comme une jeune femme dont le vent aurait soufflé en l'air la chevelure. » Et c'est vrai que ça fait rêver les gens. Alors d'autres y voient, dans les parties hautes, des guerriers en armes prêts à aller se battre. Je sais pas, mais on rêve toujours quand on est à Chambord. Et on est forcément prince et princesse quand on le visite.
Et c'est certainement pour cela que Jacques Demy a choisi le château comme décor de plusieurs scènes de son célèbre film Peau d'âne, tourné dans les années 70 et magnifié par les musiques de Michel Legrand. Pour en savoir plus sur le domaine de Chambord, allez jeter un œil sur l'internet à chambord.org. Je vous ai aussi mis des infos sur la page de Si loin si proche sur RFI.fr. À n'en pas douter, nous reviendrons ici en 2019 quand le domaine fêtera les 500 ans de la naissance du château. Cette émission a été réalisée par Laura Larry et Olga Samsonov. Salut à tous. Et à la semaine prochaine pour d'autres voyages.
Je ne savais pas que tu m'aimais.
En êtes-vous certain désormais?
Il aura suffi d'un anneau d'or.
Il aura fallu qu'on nous jette un